21h passées de quelques secondes, un nouveau numéro de Wagon Livre ce soir sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous, Yannick Petit au micro pour vous souhaiter la bienvenue à bord du 165e numéro de votre rendez-vous littéraire. Quelques jours avant les commémorations officielles du 70e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944, l'émission de ce soir revient sur une période troublée de notre pays, celle de l'occupation, mais aussi celle de l'épopée de la résistance. Avec notre invité, nous allons évoquer Armand Simoneau, ancien bûcheron, charpentier, militant d'abord pacifiste, puis communiste, et surtout premier franc-tireur et partisan de Lyon, un temps à la tête du maquis Vauban dont on parlera ce soir. Alors pour faire connaissance avec ce maquisard FTP né en 1908, disparu il y a 30 ans, en 1984, nous accueillons ce soir devant notre micro Jean-Yves Boursier. Jean-Yves Boursier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous d'être en notre compagnie. Vous êtes professeur en anthropologie et vous faites paraître depuis quelques mois, l'ouvrage est disponible en librairie, un essai intitulé « Armand Simoneau, bûcheron du Morvan, communisme, résistance, maquis », ouvrage disponible aux éditions de l'Harmattan. Avant d'évoquer le destin, parce que c'est quelque part aussi un destin, cette vie d'Armand Simoneau, comment passe-t-on de l'anthropologie à l'histoire d'un maquis et plus précisément d'une figure du maquis?
Il ne s'agit pas de passer de l'anthropologie à l'histoire, c'est complètement imbriqué. Lorsqu'on étudie une personne, c'est toujours une personne dans une situation ou des situations. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que cette personne a à dire sur cette situation ou ces situations. Et à dire en subjectivité, c'est-à-dire avec son propre langage, ses propres propos, les propres thèses qu'il énonce sur ce qui a eu lieu, et non pas comme un perroquet reprenant ce qui est dit ici et là, comme on le voit très souvent.
Alors, votre livre a été constitué à partir du témoignage d'Armand Simoneau que vous avez rencontré il y a maintenant longtemps, puisque vous l'avez rencontré entre 82 et 84 années de sa mort. Alors, Armand Simoneau est né en 1908, c'est-à-dire 6 ans avant la Grande Guerre, et il meurt 5 ans avant la chute du mur de Berlin. C'est dire que le parcours de cet homme s'inscrit entre deux événements charnières du XXe siècle.
Absolument. Et c'est en partie un des intérêts de ce qu'il a à dire, parce qu'il s'est passé des choses importantes dans ce qu'on peut appeler le court XXe siècle, si on utilise la caractérisation de l'historien Hobsbawm ou du philosophe Badiou, c'est-à-dire de 14 à 90 ou de 17 à 90 selon que l'on fasse débuter à la guerre de 14 ou à la révolution d'octobre 17. Et le terme étant la dislocation de l'Union soviétique. Donc, il y a eu de grands événements dans ce court XXe siècle, que ce soit les deux guerres mondiales, dont l'une a été marquée par le génocide des Juifs et des Tziganes, notamment. Ensuite, il y a eu quand même la révolution d'octobre 17, et puis la révolution chinoise, les guerres de libération, les guerres coloniales. Donc, des événements importants, des événements mémorables que Simoneau a vécu et qu'il a vécu, lui, en tant qu'acteur, puisqu'il a été acteur de la période des années 30, c'est-à-dire la période où le fascisme se développe, où le nazisme arrive au pouvoir en Allemagne, et où il y a la guerre. Et dans cette guerre, là, ce qu'on a appelé la résistance. Voilà.
Alors, votre essai a pour titre « Armand Simoneau, bûcheron du Morvan ouais. ». Alors, nous l'avons dit, il est originaire d'un petit village de Lyon, qui se trouve, on va dire, à proximité de Carré-les-Tombes et d'Avallon, donc le village de Saint-Léger-Vauban, qui est le village natal du célèbre maréchal Vauban. Et Armand Simoneau est finalement un ouvrier bûcheron. Et vous, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous expliquez comment, sur les terres de la droite républicaine dans la Vallonnée, c'est-à-dire les terres du député Flandin, comment on peut devenir, enfin, d'abord pacifiste, ensuite communiste, et comment on réussit à créer une cellule communiste dans un tout petit village qui finalement est un pays reculé, plutôt conservateur et paysan.
Il n'y a pas forcément un lien entre paysan et conservateur. Au contraire.
On peut être paysan et socialiste.
Ou avoir... on peut être paysan et progressiste. Bon. C'est pas la question. D'abord, Armand Simoneau n'est pas ouvrier bûcheron. Au début, il est paysan.
Oui. Alors peut-être qu'on peut voilà. rappeler que c'est quand même un enfant qui est élevé par sa grand-mère, qui voilà. a un petit lopin de terre, enfin une toute petite exploitation agricole, et les parents de Simoneau sont, comme beaucoup de Morvandiaux, contraints à l'exil professionnel, sa mère est nounou à Paris, et son père est chauffeur de maître dans une grande famille aristocratique.
Voilà, donc sont tout simplement des domestiques. Il faut... utiliser le terme, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont émigré pour travailler dans les familles de la grande bourgeoisie parisienne ou de l'aristocratie. Et ils étaient très nombreux, les Morvandiaux, à émigrer. On peut dire d'ailleurs que c'est quasiment l'aristocratie de l'émigration pour le travail. Parce qu'il y a ceux qui émigraient comme ouvriers d'usine. Par exemple, au Creusot, les usines Schneider employaient beaucoup de Morvandiaux qui venaient travailler. Bon, et puis, comme ouvriers agricoles qui allaient se louer à la louée sur les foires, etc. Bon, cela dit, Simoneau est donc élevé par ses grands-parents. Il travaille la terre pendant un moment. Et à l'âge de 16 ans, c'est... commence à être bûcheron. Et il l'est complètement lorsqu'il revient de l'armée en 1930, où là, l'exploitation est ruinée, ce sont toutes petites exploitations. Hein. Et donc là, comme il dit, il devient bûcheron professionnel avec des copains et il faut une cognée, une scie et une serpe. Voilà, c'est-à-dire ils ont leur force de travail.
Ce sont des prolétaires.
Ce sont exactement des prolétaires. Alors, quant à la question du communisme, d'abord, Simoneau a fluctué entre ce qu'on pourrait appeler les pacifistes libertaires et le communisme jusqu'en 1934. Hein? Comme il dit, j'ai fait mon professeur moi-même, donc au début... il a lu des journaux, l'avant-garde des jeunesses communistes, qui arrivaient là, bon, les idées se diffusent toujours, mais en même temps, il était lié aux pacifistes qui étaient organisés dans la région, dans la Ligue internationale des combattants de la paix, donc qui étaient plutôt des pacifistes à tendance libertaire, certains, mais pas tous, bon. C'est seulement en 1934, lorsque le nazisme arrive au pouvoir en Allemagne, et là Simoneau est très clair sur ce point, qu'il s'organise au Parti communiste français et il organise une cellule à Saint-Léger-Vauban, Carré-les-Tombes, avec un plâtrier peintre qui s'appelait Albert Visinant et un facteur qui s'appelait René Thiessard. Voilà, à trois. Donc c'est vraiment la question de l'antifascisme qui est au cœur de son engagement politique. C'est-à-dire que l'antifascisme devient la question principale à partir de l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, et donc des menaces de guerre par rapport à ce qu'il défendait avant, c'est-à-dire un pacifisme qui, on sait comment il a terminé très souvent, c'est-à-dire ce qu'on appelait le pacifisme bel an, qui s'est terminé pour certains comme Hervé et d'autres dans le vichisme même.
En fait, ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que la vie de Simoneau est calquée sur les soubresauts de la politique française. Un temps, il est anticlérical, mais enfin, il le sera toujours anticlérical. C'est plutôt un non-calotin.
Et il est non-calotin, comme il le dit, parce qu'il faut quand même bien resituer le contexte. Dans les campagnes des années 30, l'Église est un appareil politique et un appareil idéologique. Il ne s'agit pas de la croyance du christianisme ou autre, il s'agit d'un appareil. Or ici, il parle du monastère de la pierre qui vire, n'est-ce pas? Et il parle des vieux socialistes paysans de Saint-Léger-Vauban qui étaient anticléricaux, n'est-ce pas? Et donc il y a toujours eu un débat dans les années 30, et puis ça a continué, puisque dans les années 50, il y a eu la pétition laïque, etc., un débat sur la question de la laïcité, sur la question de l'école libre, dans les campagnes en particulier. Bon. Mais ce n'est pas l'aspect principal du personnage.
Mais ce qui est aussi important, c'est que Simoneau Bûcheron, je reviens sur le fait, oui, parce que c'est le titre de votre ouvrage, Bûcheron du Morvan, il est Bûcheron du Morvan, et là aussi on peut dire que les luttes sociales dans le Morvan et dans la Vallonnais sont liées au fait que la forêt est la propriété souvent des grands propriétaires, de grosses fortunes, et qu'il y a ce petit peuple qui a quand même du mal à joindre les deux bouts, et qui travaille, vous dites même Simoneau, en tant que bûcheron, travaille 18 à 20 heures par jour, parfois dans un travail très physique,
oui,
et dans des conditions climatiques pénibles.
Bon, les luttes sociales, c'est vrai que les bûcherons, historiquement, ont été un des noyaux importants des luttes sociales du 19e siècle. Mais là, dans la Vallonnais, ce n'est pas le cas. Dans cette région du Morvan, ce n'est pas le cas. Comme dit Simoneau, ce sont souvent des paysans qui ont un travail d'appoint dans la forêt, et donc qui leur permet de subsister. C'est un élément de l'économie de subsistance qui, effectivement, permet de ne pas émigrer. Et les bûcherons professionnels étaient relativement peu nombreux, comme lui. Et donc, c'était pas... Comme il explique, les syndicalistes d'Auxerre n'avaient pas compris cette situation complexe des campagnes. Ils avaient une vision très ouvriériste, les salariés, etc., etc. Ce n'était pas le cas. Donc ce sont des activités annexes au travail de la terre, comme vous savez, des agriculteurs, des paysans qui peuvent être aussi ouvriers d'usine.
Néanmoins, avant 1914, dans la Vallonnais, il y a un syndicat de bûcherons.
Ah, bien sûr, il y a un syndicat de bûcherons. Mais c'est pas quelque chose dont Simoneau parle, ces questions-là. Parce que, manifestement, c'est pas ce qui a marqué son existence. Vous savez, moi je prends ce que disent les gens aussi. Et ce qu'ils disent aux questions que je leur pose. Or, Simoneau s'est toujours beaucoup plus préoccupé directement de questions politiques, et en particulier des questions politiques qui ont trait à l'indépendance de la France, ce que j'appelle la question nationale, c'est-à-dire au rapport au pays, mais aussi aux gens qui vivent dans le pays, beaucoup plus qu'à des questions sociales. Si vous lisez les entretiens avec lui, voyez que, bon, on sait qu'il y a eu par exemple des grèves à Auxerre, aux usines Guillet en 36, il y a eu des grèves aussi en 47. Lui, c'est pas quelque chose qui le marque. Ce qui le marque, c'est le combat antifasciste et la guerre.
Alors, on en reparle d'ici quelques minutes. Nous marquons un premier temps de pause, incontournable dans une émission qui aborde le thème de la résistance. Je propose qu'on écoute quand même le chant des partisans, interprété par Germaine Sablon. Rendez-vous dans une poignée de minutes avec Jean-Yves Boursier, anthropologue et auteur de Armand Simonneau, Bûcheron du Morvan, Communisme, Résistance, Maquis. C'est un ouvrage récent, disponible en librairie aux éditions de l'Harmattan.
Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit ont des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Supplie, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Si vous avez manqué le début de cette émission, retrouvez-la d'ici quelques jours en podcast sur le site internet de Radion, www.radion.fr. Nous sommes ce soir au cœur de l'histoire de la résistance iconaise, puisque nous parlons du maquis Vauban, premier maquis FTP de Lyon, et d'un de ses fondateurs ou un de ses animateurs à travers la figure mémorable d'Armand Simonneau. Nous sommes en compagnie de Jean-Yves Boursier, anthropologue et auteur de Armand Simonneau, Bûcheron du Morvan, Communisme, Résistance, Maquis. C'est un ouvrage disponible aux éditions de l'Harmattan. Arrive, après la montée des fascismes, montée et triomphe du nazisme, arrive la guerre, Seconde Guerre mondiale. Simonneau est mobilisé en tant que marin. Et puis, bien sûr, c'est la défaite, la débâcle, grand désastre, grande déroute aussi pour l'armée française. Simonneau se démobilise, revient dans son village de Saint-Léger-Vauban. Et là, ce qui est surprenant, sans que personne ne le contacte, de lui-même, il décide, dans un premier temps, a-t-il déjà une idée derrière la tête, il décide de ramasser, si je peux me permettre ce verbe, de ramasser des armes qui ont été oubliées par les soldats français en déroute. C'est Absolument. Une initiative toute personnelle.
Oui, bon, d'abord, ce qui est, il est nécessaire quand même de signaler qu'il a combattu en 40. Hein, en juin 40, il a combattu en première ligne dans la région de Villers-Cotterêts avec les troupes nord-africaines notamment, et où il y a eu des combats extrêmement durs. Bon, et après, l'état-major n'a pas organisé la défense nationale, et donc après, les troupes sont en retraite, et c'est l'armistice signé par Pétain, et donc Simoneau, lui, attend pas, il rentre au village, il se démobilise et il rentre au village. Et à peine rentré au village, depuis quelques jours, une femme lui signale qu'elle a vu une cartouchière de chasseur et un fusil dans une CP de houx. Et donc, il va collecter et il trouve des armes qui avaient été abandonnées par une colonne française, une colonne de l'armée française qui s'était infiltrée dans la région de Carré-les-Tombes pour se réfugier dans le Morvan, au moment de la débâcle, et donc de la retraite vers le sud. Et donc là, Simoneau organise son premier dépôt d'armes. Voilà. Et comme il l'a dit plus tard, un responsable communiste, qui avait repris des contacts bien plus tard, c'est pas avec des tracts qu'on va faire la guerre. Quand le dirigeant communiste lui dit « Qu'est-ce que tu vas en faire de ces fusils ?» Il lui dit « C'est pas avec des tracts qu'on va faire la guerre. » Et effectivement, ces armes ont servi, puisque les dépôts que lui avait organisés, mais pas tout seul, il y a aussi d'autres morvandiaux qui avaient ramassé des armes aussi. C'est-à-dire que le sentiment national et patriotique s'exprimait au travers d'un certain nombre de personnes comme ça. Ces armes vont servir à armer le maquis Vauban, qui n'avait pas d'armes. Voilà.
Alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a plus d'État national. Lors de votre conférence à la Maison Vauban, le 22 mai dernier, j'étais très attentif et j'ai bien noté, vous l'avez dit, que Vichy est un protectorat nazi mis en place par les Allemands. Il n'y a plus d'État national, il n'y a plus d'armée nationale, bien évidemment. Et donc, les Français qui avaient quand même été éduqués dans le culte de l'armée, l'amour et le respect de ses chefs militaires, est un pays qui n'a plus d'armée, qui n'a peut-être plus d'État national. Et Simoneau, finalement, envisage tout de suite l'action guerrière.
Alors,
parce que ramasser des armes dès 1940, c'est quand même dans le but d'organiser un combat militaire, entre guillemets, ou armé, en tout cas.
Il me semble que ramasser des armes lorsqu'un pays est en train d'être occupé par une armée étrangère, ce n'est pas pour organiser un musée. C'est pour s'en servir.
Mais c'est du vieil armement. Il me semble avoir noté que c'était des fusils Lebel, modèle 1897.
Non, mais il n'y a pas que des fusils Lebel. Il y a aussi des MAS 36. Il y avait même des fusils mitrailleurs. Donc des armes, il y avait des armes récentes. Bon, alors il est certain qu'il n'y a plus d'État national, que Vichy est un État, est un protectorat nazi. Et le grand problème de ce régime de Vichy, c'est qu'il est légitimé par les parlementaires. Et étant légitimé par les parlementaires, les 8 et 10 juillet 1940 à Vichy, il est légal au regard des textes, et par conséquent la police, la gendarmerie et l'administration sont tenus d'obéir, et ceux qui sont des hors-la-loi, Simoneau le dit, ben, c'est tous ceux qui sont contre Vichy et contre les Allemands. Par exemple, De Gaulle est condamné à mort, le général De Gaulle est condamné à mort pour haute trahison par un tribunal vichiste. Bon. Et d'ailleurs, il est souvent nommé dans la presse de l'époque le dissident.
Mais c'est un militaire, De Gaulle.
Et c'est un militaire. Mais ramasser des armes, non. C'est passible de la peine de mort dans la période d'occupation. Pas tout de suite, parce que l'armée allemande pratique l'offensive de charme, comme Simoneau l'explique, n'est-ce pas, à Paris ou ailleurs. Mais rapidement, on sait très bien que l'armée allemande va fusiller des gens pour actes de franc-tireur en Normandie ou ailleurs.
Communistes ou pas ?
Mais peu importe, le Parti communiste n'est pas engagé dans le combat contre les Allemands jusqu'en juin 1941, en tant que parti. Ça ne veut pas dire que des militants individuels, comme Simoneau ou d'autres, par exemple Georges Guingouin dans le Limousin, et d'autres, soient vraiment engagés. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant. C'est que ça montre bien que c'est avant tout une question de décision personnelle.
Justement, Jean-Yves Boursier, ce qui est aussi pour nous, en 2014, qui n'avons pas connu ces événements, c'est qu'on peut être pétiniste et avoir un sentiment anti-allemand extrêmement fort. C'est le cas de Freinet, par exemple.
Absolument.
Donc, finalement, on peut être opposé à l'occupant en étant communiste, en étant pétainiste.
Mais c'est une situation extrêmement confuse, puisque vous avez des gens qui, au début, au tout début, en novembre 40, par exemple, peuvent considérer que Pétain protège la France, mais en même temps sont très anti-allemands. Il y en a des exemples dans l'armée de la zone sud, l'armée de Pétain, notamment. Et puis, vous avez le Parti communiste français qui est anti-vichiste, mais qui n'est pas anti-allemand jusqu'au 22 juin 1941, et qui est réprimé par la police de Vichy. C'est une situation extrêmement complexe. Et il faut imaginer que il était extrêmement difficile de s'y retrouver.
Chacun faisait un petit peu son petit groupe.
Ben, c'est-à-dire que c'est Germaine Tillon, ethnologue, qui était liée au réseau du Musée de l'Homme, un des premiers groupes de résistance, qui explique que la résistance était des noyaux qui diffusait à la vitesse d'une infusion dans une tasse de thé. C'est-à-dire très peu, mais qui diffuse lentement. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de résistants jusqu'au printemps 43.
Alors justement, 1943, c'est l'année où apparaît où se constitue le maquis Vauban. 17 février 1943, se constitue le maquis Vauban. Comment ce maquis se constitue-t-il? Est-ce que Simoneau en est le fondateur?
Alors,
c'est pas la figure créatrice.
Oui. Alors, il faut quand même... on associe souvent Simoneau au maquis Vauban. C'est en partie vrai, mais...
C'est à nuancer, en fait.
C'est à nuancer. À savoir qu'il est le premier FTP de Lyon. Parce que lorsque le Parti communiste constitue des groupes armés qui s'appellent les francs-tireurs et partisans en mars-avril 1942, Simoneau a le premier numéro d'immatriculation, c'est-à-dire il est enregistré comme le premier FTP et il constitue un groupe, ce qu'on appelle des groupes sédentaires, c'est-à-dire des groupes dans les villages comme ça, et un groupe dans le Morvan. Là, dans la région de Saint-Léger. Voilà. Le maquis s'est constitué après, n'est-ce pas? Et les liens de Simoneau avec le maquis Vauban sont des liens essentiellement avec l'état-major de ce maquis. Et en tant que, si vous voulez, base logistique, c'est-à-dire envoyant des armes, des tickets de ravitaillement, des choses comme ça. C'est uniquement en février... Début février 44, lorsque Simoneau est obligé de passer à l'illégalité et à devenir hors la loi, puisqu'il est pourchassé, qu'il passe au maquis, qui à ce moment-là est venu de Ravière jusqu'à Saint-Agnan. C'est-à-dire, il n'est même pas dans Lyon, il est dans la Nièvre à Saint-Agnan. Mais en même temps, il est à côté, dans Lyon, du côté de Carré-les-Tombes, Saint-Léger, etc.
On reprend notre conversation et on reparle de ce maquis FTP, le maquis Vauban, qui est au cœur de notre entretien ce soir avec Jean-Yves Boursier, pour son ouvrage Armand Simoneau, Bûcheron du Morvan, aux éditions de l'Harmattan. Tout de suite, c'est Léna Luce que nous écoutons, Gaieté, jeu d'enfance sur Radio. Je voudrais aussi remercier M. et Mme Barne de l'hôtel Avalon-Vauban qui nous ont accueillis pour l'enregistrement de cette émission. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve avec Jean-Yves Boursier dans une poignée de minutes. Pa 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 p
leva la bascule. Il ne voyait plus qu'elle, entre les billes et les bulles, sa princesse caramel.
Elle comptait les papillons au pied de son château de mousse et de coton, en attendant son héros.
Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde.
Les dragons pour délivrer sa belle, son épée en carton lui paraissait réel.
Jouer à la marelle au milieu du salon pour atteindre le ciel, s'évader du donjon.
Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. Il s'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde.
Il joue à être musicien,
traverse le temps en chantant.
Ils inventent des refrains,
ils en font un jeu d'enfant.
Ils s'en iraient refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, une terre plus ronde. S'en irait refaire le monde, un ciel plus bleu, une terre plus ronde, entrer dans la ronde.
Retour à bord de Wagon Livre, ce soir au cœur du maquis Vauban avec notre invité Jean-Yves Boursier pour son ouvrage consacré à Armand Simoneau, Bûcheron du Morvan, un ouvrage disponible aux éditions de l'Armatan. Nous avons bien compris que ce maquis Vauban, finalement, c'est le maquis des gars de Ravière. Ravière, c'est au sud d'Ancile-Franc, c'est d'ailleurs la fin des limites du Tonnerrois. Le maquis Vauban, c'est le maquis des gars de Ravière, c'est le maquis des gars de Chassignel, des gars de la vallée de l'Armançon et des petits villages, hein, Stigny et Glan, parce que je connais un petit peu ce coin. Et effectivement, la grande difficulté tout de même pour les maquis, c'est de disposer d'armement pour être un peu crédible aussi face à l'occupant.
Alors, c'est Simoneau qui dit « c'est les gars de Ravière ». C'est une image, c'est une façon de dire, j'ai gardé l'expression, parce que effectivement le recrutement est avant tout local, c'est les gars de Ravière, c'est les carriers, c'est les gars de la campagne, des ouvriers de la campagne, mais il n'y a pas que des ouvriers, il y a des garçons bouchers, il y a des menuisiers, etc. Et ils sont ancrés dans leur région, parce qu'il y a des familles. Et on ne peut pas avoir un maquis sans un support. Bon. Et donc, le problème de ce maquis, c'est qu'il faut le ravitailler, qu'il est en armement, et il n'a pas de parachutage, donc il est aussi mal encadré. Il n'y a pas véritablement comment dire, jusqu'au moment où Simoneau et son adjoint Bernard Alix prennent en main le maquis, c'est un peu, ce n'est pas très contrôlé, voilà.
Parce que ce maquis Vauban va passer une partie, courte partie de l'hiver 43-44 à la chapelle Saint-Pierre à Saint-Aignan, là on est dans la Nièvre, au milieu de la forêt, Et ensuite, ce maquis va, disons, se déplacer sur Ravière. Mais c'est un maquis qui a été menacé. Mais Ravière, on l'a dit, c'est la vallée de l'Armançon. C'est aussi tout un ensemble de points stratégiques. C'est un maquis qui est plus utile du côté de Ravière que finalement au cœur de la forêt morvandelle. Pour des actions notamment par rapport à la ligne PLM, par rapport à la Nationale 5, ou par rapport aussi au canal de Bourgogne.
Justement, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Et Simoneau reprenait la thèse officielle qu'on lui avait donnée, à savoir, tu vas pas faire un maquis ici, parce que, à part faire sauter une passerelle sur un ruisseau pour empêcher les femmes d'aller laver leur linge, il vaut mieux mettre les hommes dans le couloir stratégique où, effectivement, comme vous dites, il y a le canal, la Nationale 5, etc. Ça ne résiste pas une seconde à une étude d'une carte, puisque l'axe stratégique, c'est quand même la Nationale 6. Or, la Nationale 6, elle passe ici à Avallon, et elle n'est pas là-bas à Ravière. Elle passe ici à Avallon, et c'est-à-dire à 10 km du Morvan. Or, quand on voit, par exemple, le maquis qui a été le plus considéré comme le plus dangereux par les Allemands, qui sont les groupes que Georges Guingouin, l'instituteur, avait organisé dans le Limousin, il est à 50 km, 40 à 50 km de tout endroit stratégique. Il est dans la petite montagne limousine, dans des coins qui sont aussi perdus que le Morvan. Ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement actif et de se déplacer. Les actions de franc-tireur, c'est par définition se déplacer, être mobile. Donc il y a une véritable question qui est quelle est la politique de réfléchir sur la politique militaire qu'avait la direction communiste, qui était de mettre des hommes dans ce coin plutôt qu'ailleurs. Ils sont venus à Saint-Léger-Vauban au début de l'hiver 44 parce qu'ils avaient été attaqués et largement disloqués à Asnières en montagne.
Alors, il y a deux coups durs quand même pour le maquis Vauban qui a failli disparaître.
Absolument.
Il y a d'abord Ouzessart et Pimel, c'est là ça, on est dans le Tonnerrois, c'est le 19 octobre 1943. Et à ce moment-là, vous écrivez, Jean-Yves Boursier, que le maquis Vauban compte 38 hommes, ce qui est un effectif relativement important à l'époque. 38 hommes.
C'est même très important. C'est très important. Je crois que Guingouin, dans le Limousin, devait avoir à l'époque 150 hommes à peu près, ce qui était considérable. Et quand on regarde les chiffres, il y a un historien qui a beaucoup travaillé sur ces questions dans le Morvan, qui s'appelle Jacques Canot, qui a étudié les effectifs comme ça, et moi ça m'a beaucoup servi. C'était des effectifs qui se comptaient sur les doigts d'une main, ou de deux mains au maximum, à l'automne 43, dans la plupart des maquis. Bon, et donc 38, c'est beaucoup. Et qui venaient de partout d'ailleurs. Il y avait des Parisiens, il y avait des Marocains qui avaient été libérés de groupes de travail où ils avaient été affectés, des anciens prisonniers de l'armée française.
Bon, des réfractaires du STO.
Ah ben bien sûr, des réfractaires du STO, mais il n'y avait pas que des réfractaires du STO, il y avait des militants qui étaient repérés, comme par exemple Philippot, qui avait Antoine Philippot, qui était un vieux militant communiste de Ravière, qui avait l'âge de Simoneau, c'est-à-dire c'est des gens qui avaient déjà 35 ans.
Alors, autre gros coup dur, c'est celui du 2 février 1944. Que se passe-t-il à Saint-Léger-Vauban le 2 février 1944 ?
Alors là, c'est quelque chose de relativement classique dans les collaborateurs, les gens des renseignements allemands. Apprennent que des maquis sont dans la région parce qu'ils se signalent, leur activité signale par des attaques de bureaux de tabac, pour trouver des tickets, et aussi par, justement, en ce qui concerne février, ils avaient, je crois, dérobé la voiture d'un collaborateur. Donc, immédiatement, il y a des maquis dans la région. Bon. Et donc, il y a eu une opération de...
Donc, il y a dénonciation.
Mais dénonciation, il n'y a pas forcément besoin de dénonciation, dans la mesure où il y a des agents de l'ennemi qui sont un peu partout. Et donc, des agents de l'Abwehr, enfin, ou de l'armée allemande, ensuite des collaborateurs, ce qu'on appelle des collaborateurs. Et voilà. Et donc, il y a une rafle qui s'opère et qui...
Alors, c'est la milice française qui intervient dans ce village de Saint-Léger-Vauban le 2 février 1944.
C'est pas la milice, ce sont les francistes, c'est-à-dire des groupes armés d'un parti fasciste qui était le parti franciste.
Et qui viennent d'Auxerre ?
Ils viennent d'Auxerre. Et donc, ils viennent et les Allemands viennent aussi. Et donc...
Ils viennent, entre autres, pour arrêter Simoneau ?
Ils viennent pour... On vient pour arrêter Simoneau, mais on vient aussi pour s'occuper de maquisards de différents groupes, qui ne sont pas forcément des FTP, puisqu'il y a un maquis qui était lié au maquis de Saint-Brisson, qui a été un petit groupe de 5 ou 6, qui a été disloqué, etc. Bon, et puis il y a eu une rafle... Parce que les informateurs de l'occupant savaient qu'il y avait des résistants dans cette région.
Alors, à Saint-Léger, pendant l'occupation, le maire, qui dans un premier temps est pétainiste, c'est le docteur Chevillotte, ce docteur évolue en fait, parce qu'au bout d'un moment, c'est une figure aussi.
Mais c'est très intéressant parce que, ce que nous montre Simoneau, c'est que les gens évoluent. La masse de la population est pétiniste en 40.
Mais anti-allemand ?
Et pas forcément. Il y a des pétinistes et puis il y a des anti-allemands, effectivement. Mais le maire est...
Donc on parle du maire de Saint-Léger-Vauban.
Le maire de Saint-Léger-Vauban est légitimiste. C'est un notable flandiniste, légitimiste. Il y a un état vichiste. Et lui... Il est très anticommuniste, il est pour Vichy, mais rapidement il va évoluer, notamment lorsque les Allemands vont arriver dans la région. Et il a soigné des maquisards sans aucun problème.
Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que ce docteur Chevillotte, en 1945, demande à Simoneau d'être sur sa liste aux élections municipales.
Oui, parce que c'est la grande alliance à la libération. Mais Simoneau n'est pas dans ces affaires-là, parce qu'il est en Allemagne, avec beaucoup de maquisards qui sont partis dans les régiments de volontaires, combattre sur le front d'Alsace et jusqu'en Allemagne. Hein, bon... beaucoup de chefs de maquis d'ailleurs sont partis comme ça, par exemple dans la Nièvre, Roland Champenier, qui était le grand chef des maquis FTP, qui avait 20 ans à l'époque, va trouver la mort en Alsace justement en conduisant des volontaires. Bon, et quand ils reviennent d'Allemagne au printemps 45, la France est déjà libérée depuis septembre ici. Donc, il y a eu au moins 6 mois où les activités politiques des uns et des autres ont pu reprendre, mais ils ne sont pas dans ces affaires-là, les anciens maquisards.
Officiellement, la libération de Lyon a été fixée
le 4 septembre.
Ah, j'avais lu le 2 septembre 1944.
Mais Simoneau dit que un FTP a été tué, je crois, le 4. Enfin, c'est à vérifier, mais... Mais peu importe la date, mais si vous comptez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois s'écoulent avant que les maquisards reviennent d'Allemagne, d'occupation. Puisque la victoire, la défaite du nazisme, c'est le 8 mai 1945.
Alors, les mois s'écoulent, le temps passe aussi. On va marquer une dernière petite pause musicale et on viendra le moment de conclure sur le maquis Vauban. Tout de suite, c'est Cats on Trees par Jimmy. C'est la pause qu'on vous propose avant de retrouver Jean-Yves Bourcier devant les micros de l'émission littéraire de Radion pour évoquer donc cette figure haute en couleur de la résistance dans Lyon, le bûcheron de Saint-Léger-Vauban, Armand Simoneau. Excellente soirée sur votre radio locale. Retour avec nous d'ici quelques minutes sur le 90.5 ou peut-être nous écoutez-vous en direct via internet sur le www.radion.fr.
You won't find him anywhere. He's gone for good, lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you will be better people. I think I see him everywhere, even gone. I feel him all around us. I hope to hear from you. I hope one day some inspired by you will be better men. Have to see me as I am, running on this sort of pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call out of this other journey to come back to you. Have to see me as I am, but I'm still the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call out of this other journey to come back to you. Ooh, ooh. We are searching everywhere, answers out inside for a ready long time. Hope to hear from you, I hope one day by you will be better man. Would you find me? Would you find me as I am? Would you try with me? Would you try the best you can? Have to see me as I am, and I'm a sort of pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call to all of us of this journey to come back to you. Have to see me as I am, and I'm a sort of pain, forgive me and forgive us, just a call to all of us of this journey to come back to you.
Toujours à bord de Wagon Livre ce soir avec notre invité Jean-Yves Bourcier, auteur de Armand Simoneau, Bûcheron du Morvan, Communisme, Résistance, Maquis. C'est un essai disponible aux éditions de l'Harmattan. Alors vous avez bien compris que nous parlions du maquis Vauban, on pourrait presque dire que c'est le maquis de Ravière, hein, créé le 17 février 1943. Et justement, Jean-Yves Bourcier, il y a un élément à mentionner parce que à un moment, le maquis Vauban est dirigé par Armand Simoneau, mais Armand Simoneau, non pas désigné par le parti, mais élu par les gars du maquis.
Absolument. Et le maquis a traversé une grave crise de direction. Et en fait, les maquisards souhaitaient partir parce que c'était pas dirigé, pas tenu, et surtout, il n'avait pas d'armes, etc. Donc, d'une certaine manière, en élisant le chef du maquis, ils lui ont donné une légitimité, parce que ça venait du collectif, alors que la direction du parti nommait les chefs, comme ça. Les nommait, les déplaçait, etc. Et Simoneau, donc, a été, avec son adjoint Bernard Alix, ont été élus par les maquisards.
Donc il ne commande...
Ce qui n'a jamais plu.
C'est ça, le parti a froncé un sourcil.
Non, ce qui n'a jamais plu, puisque j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques années les souvenirs d'un des dirigeants du parti, que certains d'ailleurs veulent publier, je crois, bientôt, où il parle justement du caractère indiscipliné de Simoneau, et parce que ce sont des gens qui ne marchaient pas au claquement de doigts. Il a de la distance, même si c'est un militant du parti, il a de la distance. Comme en 52, lorsque Charles Tillon est victime d'un procès stalinien, eh bien, il quitte le Parti communiste parce que, comme il dit, de toute façon, je serai parti, j'étouffais moralement. C'est très intéressant de dire j'étouffais moralement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Bien là, quelque chose ne fonctionnait pas dans le maquis. Les hommes ont décidé de faire un vote et Simoneau a été élu. Voilà. Et d'ailleurs, il dit, j'ai voté pour Bernard Alix. Mais j'ai été élu. Voilà, bon, été élu, je crois, par une majorité énorme. Bon. Et donc, c'est ça qui est très particulier dans ce maquis, qui fait qu'il n'est pas dans la norme, en quelque sorte.
Le maquis Vauban va intervenir en 44 au moment où ça chauffe pour les Allemands, au moment où on approche de la libération. Il intervient du côté de Chablis, même jusqu'à Courson-les-Carrières, pour ensuite partir sur Auxerre.
Absolument. Ben, c'est toujours pareil. C'est la période dans tous les départements où il faut libérer les villes. Parce que c'est dans les villes que sont les organes de décision du pouvoir. Et donc il y a une espèce de course pour être en...
le premier à libérer.
À libérer, parce qu'il faut mettre en place des instances, etc. Et là, Simoneau dit, moi je ne peux pas marcher sur Auxerre, alors que la direction FTP communiste lui dit, il faut marcher sur Auxerre. Je ne peux pas, je n'ai pas le matériel. Comme il a dit, je veux bien, les hommes veulent bien aller à la riflette, mais pas les mains nues. Or, c'est un maquis qui est totalement sous-équipé, puisqu'il n'a eu aucun parachutage.
Ou alors il en détournera un, je crois.
Oh, non, il a récupéré quelques armes d'un parachutage dans le Châtillonnais.
Alors, à la Libération, on règle un peu ses comptes, c'est l'épuration, pas pour tout le monde. Vous parlez du journal Le Bourguignon, qui est l'ancêtre de l'Yonne républicaine, que les auditrices et auditeurs connaissent bien dans l'Yonne. Il y a, alors, un petit mot aussi sur Flandin, qui était une figure de la droite républicaine, qui est condamné, Pierre-Étienne Flandin, à l'indignité nationale, lui, carrément. Mmh. Et qui sera inéligible pendant un certain nombre d'années, qui retrouvera un poste de conseiller général, je crois, dans les années 50, dans le canton de Vézelay.
Oui, absolument.
C'est les règlements de compte, quand même, dans la société française en 1944. Il y a une certaine violence encore.
Ah ben, il ne peut pas ne pas y avoir de violence dans une période de libération. Mais je crois que ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est que la classe politique qui a été aux affaires avec Vichy n'a pas été mise de côté. Parce que l'épuration, c'est pas fusiller des gens. L'épuration, contrairement à ce que certains pourraient imaginer, l'épuration, c'est transformer les structures de l'État et transformer de telle sorte que ceux qui ont participer au pouvoir vichiste et pour d'autres et pour certains à la collaboration soit complètement mis à l'écart. Bon. Or, l'appareil d'État ici dans Lyon, par exemple, les préfets qui se sont succédés à la tête de l'appareil d'État dans Lyon n'ont pas été épurés. À part celui de Sens, le sous-préfet qui, lui, était ouvertement collaborateur, membre du RNPDA, lié au RNPDA. Mais tous les autres, notamment le préfet bourgeois qui a été à Auxerre, a continué sa carrière après la guerre. On a condamné, exécuté rapidement le commissaire des renseignements généraux, le commissaire Grégoire. Mais il aurait peut-être été intéressant de savoir ce qu'il avait à dire. Mais quand on regarde bien Lyon après-guerre, ressemble beaucoup à Lyon d'avant-guerre, avec une seule différence, c'est que le Parti communiste a un député, Prosper Mocquet, et il a augmenté...
Qui est le fils ?
Le père.
C'est le père de Guy Mocquet.
Il a augmenté ses suffrages. Mais pour le reste, je trouve que ce qu'a écrit le journal Lyon Libre, qui était le journal, un journal lié aux communistes, mais manifestement à une fraction des communistes... écrivait « On prend les mêmes et on recommence » en parlant de Lyon républicaine. Puisque Lyon républicaine, c'est entièrement le bourguignon, y compris le rédacteur en chef. Alors qu'il avait été dit que les journaux qui avaient paru sous l'occupation, donc avec l'estampille allemande et vichyste, obligatoirement, ne paraissait pas à Libération. Ah, évidemment, ça s'appelle plus le Bourguignon. On a changé l'étiquette. Donc il y a eu un accord, manifestement, consensuel, dont je ne connais pas les termes. Mais ça, certains chercheront.
Armand Simonneau, Bûcheron du Morvan, Communisme, Résistance, Maquis, un essai de Jean-Yves Boursier aux éditions de l'Harmattan. Un remarquable ouvrage sur le destin de ce maquisard iconé FTP disparu il y a 30 ans, en 1984. Et puis il y a des pages formidables sur la vie politique dans Lyon, dans les environs d'Avallon et de Carré-les-Tombes, sur la libération aussi à Auxerre. Un travail sérieux et rigoureux qui satisfera les amateurs de cette période troublée et comblera les passionnés d'histoire. Merci Jean-Yves Boursier d'avoir été ce soir l'invité de Wagon Livre sur Radion. Et puis je dis à nos auditrices et auditeurs que le samedi 7 juin prochain à Saint-Florentin se tiendra la troisième fête du livre organisée par les après-midi de Saint-Flo, c'est Place d'Ilot, à partir de 10h, donc à Saint-Florentin. À 11h, Jean-Yves Boursier, une dictée. On fait des dictées, encore une dictée. Et puis, à midi, la remise des prix du concours d'écriture des écoles et, comme chaque année, la remise des prix du concours de nouvelles et de poésie des après-midi de Saint-Flo. Alors, dans l'après-midi, il y a un spectacle théâtral par la troupe professionnelle d'Aldo Magno. C'est la troupe En compagnie des anges, mais pas que. Et puis, il y a un vide bibliothèque organisé toute la journée. Vous retrouvez toutes ces informations, alors non seulement sur la page Facebook de l'émission Wagon Livre Yannick Petit, d'une part, d'autre part, sur la page Facebook Après-midi de Saint-Flo, ou alors vous, à partir d'un moteur de recherche, vous tapez les Après-midi de Saint-Flo, et vous savez, c'est magique, la toile, on a tout ce que l'on veut au bout des doigts et du clavier, ou autrement, vous pouvez aussi prendre contact par téléphone avec l'organisateur du salon, Philippe Lebouc, au 03 86 35 20 99. Merci Jean-Yves Boursier d'avoir été avec nous ce soir.
Je rappelle donc, merci.
Armand Simonneau, Bûcheron du Morvan, c'est aux éditions de l'Harmattan, et je donne rendez-vous aux fidèles de Wagon Livre mercredi prochain. 11 juin, nous serons avec Sophie Mouchet pour parler d'une artiste originaire de Lyon qui s'appelle Hélène Guinepied, professeure de dessin qui a notamment contribué à l'éclosion de la carrière artistique d'un artiste né à Avallon, c'est Gaston Chessac. C'est mercredi 11 juin, toujours à 21h sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous, au revoir et à mercredi. We'll be right back.